Emmanuel Lévinas, vos premiers livres étaient des livres d'historien de la philosophie ou d'analyste des autres philosophes. Vous avez publié des articles et des ouvrages sur Husserl et sur Heidegger. Votre premier livre autonome, si j'ose dire, dans lequel vous livrez votre propre pensée, c'est un petit livre qui s'appelle De l'existence à l'existant. Vous l'avez écrit, dites-vous, dans votre préface, vous l'avez écrit pendant la guerre, dans le Stalag. Pouvait-on faire de la philosophie dans le Stalag?
Oui, au Stalag, on est toujours philosophe de dimanche seulement. Surtout quand vous êtes au Stalag, on vous fait travailler. Ce livre remonte, en effet, à cette époque-là, mais la chose centrale dont il y est question, c'est ce que j'appelle l'Ilia. Je ne savais pas du tout qu'Apollinaire a écrit une œuvre qui s'appelait l'Ilia aussi. Mais l'Ilia chez Apollinaire était au contraire, exprimait la joie de ce qui existe, hein, l'abondance de ce qui existe, un peu comme le Sgypte. Au contraire, l'Ilia, pour moi, est un phénomène de l'être impersonnel. Il, n'est-ce pas? Ce thème remonte à des souvenirs d'enfance, pas au berceau, pas du berceau, mais enfin, la période où l'enfant s'endort seul dans les grandes personnes continuant la vie et qui ressentait le silence de sa salle, chambre à coucher comme bruissant.
Un
Comme si c'était
silence bruissant.
bruissant, n'est-ce pas? Et quelque chose qui ressemble à ce qu'on entend quand on approche une coquillage vide de l'oreille. Comme si le vide était plein, comme si le silence était un bruit. Et quelque chose qu'on peut ressentir aussi quand on pense que même si il n'y avait rien, le fait qu'il y a n'est pas niable. Non pas qu'il y a ceci ou cela, mais que la scène même de l'être est ouverte. Il y a, dans ce vide absolu qu'on peut imaginer d'avant la création, il y a.
Alors vous avez évoqué à l'instant le Esgypte, c'était une allusion au Ilia allemand qui se dit Esgypte et à toute l'analyse que Heidegger a faite de ce Esgypte comme générosité
Comme
justement, puisque dans
générosité.
le Esgypte il y a le verbe geben qui veut dire donner. Et pour vous, c'était différent.
C'est différent, en tout cas, il n'y a aucun rapport. On a pensé, les gens qui ont lu mes petits livres, se sont imaginés que Esgypte était, que l'IA était heideggérien. C'est absolument indépendant d'Heidegger et c'est absolument opposé parce que ce sur quoi j'insiste dans ces descriptions d'IA, c'est précisément sur son impersonnalité. Il y a comme il pleut ou comme il fait nuit. Un bruit revenant après toute négation de ce bruit. Ni néant, ni être. J'emploie parfois le mot le tiers exclu. Hein? On ne peut pas dire que cet être qui persiste, ce il y a qui persiste, que c'est un événement d'être. Hein? Il n'y a rien. Mais on ne peut pas dire que c'est le néant. Et l'existence et l'existant essaient de décrire cette horrible chose et qui le décrit comme horreur, comme quelque chose d'affolant.
Donc, sur le lit de l'enfant qui sent durer la nuit, il y a une expérience de l'horreur.
Oui. Par angoisse, hein, le livre de l'existence et l'existant apparut avec une bande où j'avais fait mettre où il n'est pas question de l'angoisse. On en parlait beaucoup à Paris, on parlait beaucoup de l'angoisse à Paris, on commençait beaucoup à en parler déjà.
Le livre est paru en
En 47,
1947.
47, tout de suite après la fin de la guerre. Et alors, il y a d'autres expériences toutes proches de l'Ilia et qui sont décrites à côté de l'Ilia, notamment l'expérience de l'insomnie.
L'insomnie de l'adulte, alors.
L'insomnie de l'adulte, l'insomnie où on ne peut pas dire qu'il y a un jeu qui ne peut pas dormir, ou l'insomnie où cette impossibilité de sortir de la veille est quelque chose qui se produit objectivement, se produit indépendamment de mon vouloir, bien entendu. Mais enfin, de telle manière que cette impersonnalité de l'Ilia absorbe ma conscience, comme si c'était une dépersonnalisation de la conscience elle-même. Je ne vais pas, ça veille. Il y a une vigilance qui se passe impersonnellement. Donc c'est tout à fait distinct, je crois, du Esgiptadikaria. Je pensais souvent, je ne sais pas si je l'ai dit dans ce livre déjà très, très, très ancien, que la mort doit être une impossibilité du néant. Parce que le néant, c'est la possibilité de la négation absolue, n'est-ce pas, de la négation où la musique est finie, la musique s'arrête, n'est-ce pas, on arrête la musique, n'est-ce pas. Et au contraire, dans l'Ilia, il y a l'impression d'une impossibilité totale de sortir. Chez un écrivain que j'admire beaucoup, chez Maurice Blanchot, c'est un thème que j'aurais trouvé. Toute l'œuvre de Blanchot, il ne l'appelle pas Ilia, n'est-ce pas ? Il l'appelle le neutre, il l'appelle le dehors. Le dehors. Et il appelle. Il y a une abondance de formules très suggestives. Le remue-ménage de l'être. Et souvent, en décrivant une nuit passée à l'hôtel, dans une chambre à côté de laquelle. Ça ne s'arrête pas de remuer, on ne sait pas ce qu'ils font à côté. Tu vois. Il y a quelque chose qui ressemble à cet Ilia. Il parle aussi de la rumeur du murmure. Bah, chez Blanchot, cet Ilia est pensé jusqu'au bout. Je veux dire, c'est précisément l'impossibilité d'aller jusqu'au bout qui est l'Ilia, mais qui réapparaît dans des circonstances et dans les situation où, de prime abord, on semble s'en affranchir. Presque peut-être toute l'œuvre de Blanchot est une œuvre où ce ne sont plus romans psychologiques. La psychologie s'inverse toujours en Ilia. Et c'est cette inversion du psychologique, de l'âme, de la vie consciente en Ilia qui est peut-être ce que finalement ce roman décrive.
Vous voulez dire que dans ce roman de Blanchot, il n'y a ni sociologie, ni psychologie, mais quelque chose que, par ailleurs, vous-même analysez, et qui est l'ontologie ou la connaissance de l'être. Car dans cet Ilia, finalement, qu'il soit horrible ou qu'il ne le soit pas, qu'il soit comparable à l'Esgypte heideggerien ou qu'il ne le soit pas, de toute manière, ce qui est en jeu, c'est l'être.
C'est l'être, mais chez Blanchot, ce n'est plus l'être. C'est quelque chose, c'est pas quelque chose d'ailleurs, il faut tout le temps dédire ce qu'on dit. Ici, c'est précisément un événement qui n'est ni être ni néant. Je dirais, dans son dernier livre, qui vient de paraître, il l'appelle désastre. Désastre, ce qui ne signifie pas mort, ce qui ne signifie pas malheur, n'est-ce pas ? Mais c'est précisément cet être qui s'est détaché de sa fixité d'être. De sa fixité, de son attache à une étoile. C'est désastre, il ne parle pas au sens...
Par un jeu de mots. Enfin.
Un jeu de mots. Et c'est presque un verbe. C'est verbal, n'est-ce pas, le désastre.
C'est le fait de lâcher l'étoile.
Et puis, il y a une impossibilité de sortir de ça. Cette horreur, cet élément affolant, cet obsessionnel de l'Ilia, dans l'existence, moi, j'espérais pouvoir en sortir. Et même tout ce que je fais après est une tentative de sortir l'Ilia. Blanchot peut certainement, dans l'écriture du désastre qui vient de paraître, il prolonge, je crois qu'il prolonge les endroits où mes tentatives d'en sortir, il les prolonge en désastre.
Alors revenons de l'existence à l'existant, et en 1947, vous analysiez dans ce petit livre qui a été réédité depuis chez Vrin, vous analysiez d'autres modalités de l'être, justement, de l'être dans son sens verbal. Vous analysiez la fatigue, vous analysiez la paresse.
L'effort aussi, en essayant toujours de montrer dans ces états une fatigue d'être, une effroi devant l'être, un effroi, un recul devant cette aventure de l'être, qui, dans mon esprit, à cette époque-là du moins, signifiait l'Ilia. Et ça, le livre s'appelle « L'existence à l'existant ». Ma première idée était que peut-être le fameux « étant », le substantif, le quelque chose, ce qu'on peut désigner du doigt, est une domination d'une maîtrise, pas une sortie de l'Ilia, mais une maîtrise de cet Ilia, et je parlais alors de l'existant comme un moment de clarté, un moment où le soleil se lève, où les choses apparaissent, où elles ne sont pas portées par l'Ilia, mais où elles le dominent. On rattache l'être, on dit que la chose est, on dit que la table est. Ça, c'était la première étape. Je parlais de l'hypostase dans l'existence.
Que veut dire hypostase ?
Hypostase, c'est précisément le passage de quelque chose de verbal, ou d'une propriété, ou d'un adjectif, n'est-ce pas ça, n'est-ce pas, à l'état de quelque chose. Ça veut dire penser que l'être sauvé, c'est l'être qui se pose, et que ce, par conséquent, est un étant, c'est un existant. L'existence est existant, comme si le passage aux existants était une libération de l'Ilia. Mais ça m'a paru, dans ce livre même, uniquement une étape, et je pensais que la véritable... le moi, du moins, le moi qui existe, qui était aussi un existant à cette époque-là pour moi, était moi, je le décris souvent comme encombré par cette existence qu'il doit dominer. Ce mot encombrement, comme s'il existait, on était plein de bagages. Le fameux souci heideggerien était pour moi l'encombrement de l'existant par l'existence qu'il devait dominer. Et c'est à partir de ce moment-là, peut-être n'était-ce pas si conscient que maintenant, quand je le revois à mon livre, c'était un tout autre mouvement où il fallait aussi, non pas se poser, mais, si vous voulez, faire acte de déposition, comme quand on parle de roi qui se dépose. Et cette déposition m'a paru possible, pas possible, au contraire, m'a paru donnée. La dimension m'a paru tout à fait claire, elle m'a paru encore très claire, c'est la relation sociale avec autrui. C'est la... Je me suis toujours méfié du mot amour qui est si relaté, n'est-ce pas ? C'est le souci d'autrui, c'est la responsabilité pour autrui, et c'est par conséquent la relation sociale, qui est une relation éthique, qui m'a paru comme la délivrance de l'Ilia. Et tout ce que je fais depuis lors, je n'ai plus beaucoup parlé d'Ilia, si de temps en temps elle réapparaît, c'est une phénoménologie du social et de l'éthique, qui est appelée une phénoménologie parce que la relation sociale n'a pas du tout la structure du savoir à laquelle restait attachée toute la phénoménologie husserlienne. Il y a une priorité du savoir chez Husserl. Il y a, même chez Heidegger, un grand rôle resté à comprendre. Bien entendu, les Heideggeriens orthodoxes me diront que j'interprète d'une manière trop partiale le comprendre heideggerien comme théorie. Il n'empêche que l'idée de vérité, l'idée d'apparaître, l'idée de se montrer, l'idée de se dévoiler, l'idée de prise qu'il y avait du moins dans le Verstehen, dans le comprendre de Sein und Zeit, l'idée du pouvoir même, dans la possibilité est un pouvoir dans Sein und Zeit. Et pour moi, disparaît, enfin, n'est plus au premier plan dans la relation avec autrui, dans la socialité, dont j'ai essayé finalement dans les deux livres que j'ai écrits ensuite, dans Totalité infinie et autrement qu'être, que j'ai essayé de décrire.
Emmanuel Lévinas, Philippe Nemo, Les limites du savoir.
Emmanuel Lévinas, nous allons parler aujourd'hui de totalité et infini qui, avec Autrement qu'être et Au-delà de l'essence, est un de vos deux plus grands ou plus gros en tout cas livres de philosophie. Le titre Totalité et infini contient en lui-même un problème ou une question. En quoi s'opposent totalité et infini ?
Dans la critique de la totalité que comporte l'association même de ces deux mots, totalité et infini, il y a une référence à l'histoire de la philosophie qui peut signifier une tentative, et qui a toujours signifié une tentative de synthèse universelle, de la réduction de toute expérience et de tout ce qui est sensé à une totalité où la conscience embrasse le monde, ne laisse rien d'autre hors d'elle et est ainsi dans l'absolu, et la pensée absolue, la conscience de soi étant en même temps la conscience du tout. Contre cette totalisation, dans l'histoire de la philosophie, il y a eu peu de protestations. Pour moi, en tout cas, c'est dans la philosophie de Franz Rosenzweig, qui est sorti de la philosophie de Hegel, contre Hegel, que j'ai rencontré cette critique radicale de la totalité en partant l'expérience de la mort. Le sujet englobé dans la totalité ne s'y trouve pas à l'aise, n'est pas dans la totalité dans la mesure où il n'a pas renoncé à son destin particulier, dans la mesure où il n'a pas vaincu l'angoisse de la mort. Chez Rosenzweig, il y a donc un éclatement de la totalité et une toute autre voie vers la recherche du sensé.
Avant de voir comment l'idée de l'infini va s'opposer à celle de totalité, peut-être pourriez-vous donner auparavant quelques exemples de ce que vous désignez par totalité. Ce sont les systèmes philosophiques.
C'est toute la marche de la philosophie occidentale aboutissant à la philosophie de Hegel qui, à très juste titre, peut apparaître comme l'aboutissement de la philosophie même. Il y a eu de la philosophie après Hegel qui se présente pour les Hegeliens comme une faiblesse de la philosophie, comme une pensée non philosophique, comme une pensée faible. On peut montrer dans toute la philosophie occidentale qui était une philosophie où le spirituel, le sensé résidait toujours dans le savoir. On peut montrer partout cette nostalgie de la totalité, comme s'il était perdu, comme s'il était le péché de l'esprit. C'est la vision panoramique du réel qui est la vision, qui est la vérité et qui donne satisfaction à l'esprit.
Mais cette vision globalisante, panoramique, qui caractérise donc tous les grands systèmes philosophiques et encore une fois ce qui dépend d'eux, ne vous paraît faire insulte à une autre expérience du sens.
C'est la relation irréductible et ultime me paraissait être ailleurs, dans le face-à-face, dans la société, dans la signification morale que comporte cette relation du face-à-face. Et pas du tout une moralité qui vient comme une couche secondaire au-dessus d'une réflexion sur la totalité, mais comme au contraire, comme ayant une portée indépendante, préliminaire, et j'ai dit quelque part dans Totalité infinie que la philosophie première est une éthique.
Alors, s'opposant à cette idée que l'on peut totaliser tout le sens dans un unique savoir, il y a des choses que vous appelez non synthétisables. Lesquels ?
Eh bien, le non synthétisable par excellence, c'est certainement la relation entre hommes, la relation véritablement sociale. Et on peut aussi se demander si l'idée de Dieu, surtout telle que je la pense à partir de Descartes, est une idée qui peut faire partie d'une totalité de l'être et n'est pas. Et là, toujours été cela pour l'expérience religieuse aussi, transcendante à l'être. Et cette transcendance indique précisément le fait que on ne peut pas les penser ensemble. Que, comme dans la relation interpersonnelle, il ne s'agit pas de les penser ensemble, il s'agit d'être en face. Et par conséquent, la véritable union, le véritable ensemble n'est pas un ensemble de synthèse, mais un ensemble de face à face dont je parlais tout à l'heure.
La vie humaine, finalement, avec sa naissance et sa mort, peut être écrite par quelqu'un d'autre, par celui qui n'est pas mort, justement, celui que vous appelez le survivant, ou l'historien, ou l'historiographe. Et chacun perçoit qu'il y a une différence entre sa propre naissance et sa propre mort, et ce qui en sera consigné ensuite dans la succession chronologique des événements de l'histoire et du monde. Mais cette différence, chacun la perçoit, mais vous, vous en faites une différence totale, absolue.
Puisque je le place dans le non synthétisable, par conséquent, dans l'absence entre des hommes de cette sphère du commun, que toute synthèse présuppose. Et ce qui relie le commun qui permet de parler d'une société objectivée et le commun par lequel l'homme précisément ressemble aux choses et s'individualise, s'individue, comme on dit en philosophie, comme une chose. La véritable subjectivité humaine est indiscernable, pour reprendre l'expression de Leibniz, et par conséquent, ce n'est pas comme des individus d'un genre, ils sont ensemble. Dans cet ensemble, on a toujours vu ça, en parlant du secret de la subjectivité, mais le secret de la subjectivité était ridiculisé par Hegel. C'était bon pour la pensée romantique. C'était bon pour la pensée qui ne voulait pas être pensée jusqu'au bout.
Donc il y a dans les pensées de la totalité, il y a du totalitarisme.
La critique de la totalité est venue tout de même après une expérience politique que nous n'avons pas encore oubliée.
Et justement, vous essayez de fonder dans ce livre philosophiquement une socialité ou une forme de relation de l'individu à autrui et de l'ensemble des individus entre eux dans une société, vous essayez de le fonder sur autre chose et vous écrivez cette phrase « Le réel ne doit pas seulement être déterminé dans son objectivité historique, mais aussi à partir du secret qui interrompt la continuité du temps historique à partir des intentions intérieures. Le pluralisme de la société n'est possible qu'à partir de ce secret. » C'est donc pour fonder une société qui serait respectueuse de la liberté, et par là des libertés au pluriel, il faut un fondement, et ce fondement c'est pas seulement le libéralisme, au sens où le libéralisme serait simplement moins cruel et plus, enfin, et laisserait aller les choses, mais vous le fondez sur ça.
En effet, le livre, Totalité finie, est un premier livre. Mon premier livre qui va dans ce sens-là, et il veut poser le problème du contenu de cette relation intersubjective. Ce que nous avons dit jusqu'à présent est purement négatif. En quoi consiste cette relation sociale? En quoi consiste cette socialité autre que la socialité sur le total, ou aboutissant à la totalité, additionnable, n'est-ce pas? C'est cela qui m'a préoccupé après, et par conséquent, ce que vous venez de lire reste encore assez formel par rapport à ce qui me semble être l'essentiel et dont nous pourrons peut-être parler dans nos entretiens ultérieurs.
Résumons-nous. Qu'est-ce que le secret dont parle ici Lévinas ? C'est le fait que ma vie n'est jamais intégrable dans une totalité objective. Ma vie n'est jamais identique, pour moi, et dans la réalité telle que je la connais, à ce qu'en dira celui qui survivra après ma mort et qui écrira éventuellement mon histoire. Il ne saisira en effet qu'un aspect de ma vie et aura sur elle une perspective éminemment fausse. Dès lors, une socialité respectueuse de la vérité de la vie humaine doit être toujours une socialité pluraliste. De là, la condamnation du ou des totalitarismes en tant que doctrine qui considère la société totalement ou globalement, d'un point de vue, si l'on veut, panoramique, est tel que de ce point de vue, la vie des individus ne recèle plus de secrets, ou du moins ne recèle plus que des secrets inessentiels et secondaires. Mais la conséquence est aussi, et c'est plus subtil, la condamnation de toute doctrine sociale basée sur un point de vue scientifique globalisant, même si cette doctrine n'est nullement totalitaire au sens ordinaire du terme, c'est-à-dire fondée sur la violence et la toute-puissance de l'État. C'est ainsi qu'est condamnable même un certain libéralisme, c'est-à-dire celui qui ne défendrait la liberté que parce que la liberté serait plus efficace scientifiquement dans une société, notamment au plan économique, que la contrainte. Un tel libéralisme, en effet, ferait dépendre la liberté d'un principe objectif, d'un principe de savoir, et non pas du secret essentiel des vies. Et la liberté ne serait alors que toute relative. D'où une très importante distinction que Lévinas va développer maintenant.
Je vous dirais que il ne faut pas déduire de ce que je viens de dire une sous-estimation quelconque de ce qu'est la raison, de ce qu'est l'aspiration de la raison à l'universalité. Mais il y aurait chez moi une tentative de déduire la nécessité d'un social rationnel et fondé sur la rationalité de l'exigence même de l'intersubjectif tel que je décris. Il est extrêmement important, à mon avis, de savoir si la société au sens courant du terme est le résultat d'une limitation du principe que l'homme est loup pour l'homme, ou s'il est au contraire la limitation du principe que l'homme est pour l'homme. Il est extrêmement important de savoir si le social, avec ses institutions, avec ses formes universelles, avec sa légalité, avec ses lois, provient du fait qu'on a limité les conséquences du fait que l'homme est loup pour l'homme, ou si le social est une limitation de l'infini qui s'ouvre dans la relation de l'homme à l'homme et dans le fait que l'homme est pour l'homme. Autrui de l'homme n'est pas seul. Il y a toujours le tiers, au moins le tiers. Il y a beaucoup d'hommes et il faut savoir qui est celui qui est mon prochain. Par conséquent, il faut comparer l'incomparable dont nous parlions tout à l'heure. Il faut par conséquent peser, il faut penser, il faut objectiver, il faut savoir, il faut créer des institutions, il faut une société qui a des lois et des institutions, mais il faut toujours contrôler la politique par l'éthique.
C'est ça, il y a dans le premier cas une conception de la politique qui n'en fait qu'une régulation interne à la société, enfin comme une société d'abeilles ou de fourmis. Et dans le second cas, il y a une régulation supérieure qui est d'une autre nature et qui est éthique et qui surplombe en quelque sorte la politique.
Oui.
Et c'est de cette...
Et qui reste toujours contrôlable, qu'on peut toujours critiquer à partir de l'éthique qui en est l'origine.
Et cette seconde forme de socialité rendrait justice, elle, à ce secret qu'est pour chacun sa vie.
Mmh.